Vous étiez, je crois, déjà venu à Manosque en 2015 à l'occasion de l'apparition de Ce cœur changeant. Citons parmi vos livres récents Une partie de chasse, Comment j'ai appris à lire, qui est un essai, ou encore Ce qui est arrivé au Kempinski, un recueil de nouvelles. Vous avez aussi beaucoup écrit pour la jeunesse et vous êtes traductrice de l'anglais. Vous avez notamment traduit Virginia Woolf, à qui vous avez consacré un essai avec Geneviève Brisac, intitulé VW. Et puis, vous avez également traduit Cynthia Ozick. Alors, cette question de la traduction, de la langue anglaise, de votre rapport à la littérature américaine est précisément au cœur de ce nouveau roman, La chance de leur vie. On pourrait dire au fond que c'est votre roman américain, un roman américain écrit en français. Vous mettez en scène sur une année la vie d'une famille qui va s'expatrier, une famille française, qui va s'expatrier en Caroline du Nord sur un campus. Alors, cette famille se compose de trois personnes. Il y a Hector, le père, qui est philosophe et poète, universitaire. Sylvie, sa femme, qui est tout simplement femme au foyer. Et puis Lester, leur fils adolescent, qui a 15 ans. Ce couple a eu leur fils de manière un peu tardive, hein, puisque eux ont une soixantaine d'années. Alors, de cet exil américain, de ce poste d'observation privilégié, ils vont regarder la France comme à travers un télescope et vivre de là-bas les attentats de Paris, les attentats du Bataclan du 13 novembre. Et puis, puisque nous sommes en 2015, l'Amérique, même si elle ne le sait pas vraiment encore, s'apprête à élire Donald Trump, et certains passages de votre livre montrent l'aveuglement de ces intellectuels qui étaient certains de voir Hillary Clinton arriver au pouvoir. Est-ce que le point de départ de ce livre était au fond une sorte d'expérience de laboratoire, c'est-à-dire prendre une famille française, les déraciner, les sortir de leur milieu d'origine et voir ce qui se passe?
Bonjour tout le monde, d'abord. Vous entendez bien? Oui. Et merci Sophie Joubert pour cette présentation. Plus fort? Alors, est-ce qu'on peut mettre plus fort, monsieur Dusson? N'hésitez pas, si au cours de la rencontre, vous n'entendez pas, à faire des gestes, à vous manifester, tout ça. Enfin, des gestes compréhensibles, hein. Quand même. Donc, merci Sophie Joubert pour cette présentation. C'est tout à fait mon genre de faire des expériences de chimie à l'intérieur de mes livres. Je l'ai fait déjà, mais je crois que je mentirais si je disais que c'était ce qui avait été à l'œuvre à l'origine de ce livre. Il y a aussi certains livres qui agissent comme des purges. J'espère que ça ne sera pas une à lire, mais en tout cas, dans mon cas, je crois qu'il y avait... J'ai été traversée moi-même par le désir très impérieux de quitter la France. Durant l'année 2015, c'était pas la première fois que ça me prenait, mais avec les attentats, et avec pas seulement avec les attentats, aussi avec une certaine atmosphère, avec certains discours extrêmement menaçants, inquiétants, avec une montée extraordinaire de l'antisémitisme, je me disais, tiens, est-ce que c'est pas les années 30 qui sont en train de se rejouer? Est-ce qu'il faut pas partir à temps? Et donc, j'ai pensé aux États-Unis moi-même et je me suis dit, mais est-ce que c'est encore une terre possible? Est-ce que nous avons encore cet ailleurs comme un ailleurs désirable, accueillant? Et j'ai quand même fait le geste, et je m'en suis souvenue récemment, j'avais complètement oublié ça, et c'est en parlant du livre que je me suis souvenue de ce geste que j'ai fait, de me rendre sur des sites d'universités américaines pour voir s'il n'y aurait pas un poste pour moi. Et alors, c'est étrange parce qu'après, on fait un livre où on envoie un des personnages. Et il obtient un poste aux États-Unis et on appelle ça la chance de leur vie. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? Est-ce qu'il n'y a pas un côté, puisque j'ai pensé le faire et que je ne le fais pas, je le mets dans un livre? C'est ça que j'appelle une purge, comme purger une passion, ou crever un genre d'abcès, ou etc. Mais ce n'était pas la seule chose, parce que ça, c'était, disons, un phénomène lié à des circonstances. Il y avait quelque chose de plus vaste, de plus long, qui était un questionnement qui me tenait depuis des années sur la France Et qui était un... Moi, je suis née en France, j'ai toujours grandi en France, toujours vécu en France. Et à chaque fois que je traverse ce pays, je me dis, mais il est merveilleux, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est un pays intéressant. On y mange bien, le climat est doux, il y a des tas de choses merveilleuses. Et j'avais quand même le sentiment qu'on n'était pas très heureux, qu'il y avait par rapport à d'autres populations qui étaient beaucoup moins favorisées géographiquement, socialement, économiquement, intellectuellement, culturellement. J'avais l'impression qu'il y avait plus de joie de vivre chez d'autres peuples, chez d'autres populations. Et je me disais, tiens, pourquoi la France est un peu triste? Qu'est-ce qui lui arrive? Et j'avais, peut-être que c'était moi qui étais triste, hein, je ne sais pas. Mais quand même, ça a duré pendant des années. Je me disais, je trouve que les gens font beaucoup la gueule. Et je me contentais pas de les Français sont, ah ouais oui les Français sont râleurs etc, ça me semblait être une sorte de cliché qui était pas très juste. Et donc là où on rejoint l'expérience, puisque vous utilisez le mot de l'expérience, c'est que je me suis dit tiens, je voudrais aller voir la France depuis loin, depuis le lointain, et voir à quoi elle ressemble et voir si j'éprouve une nostalgie et si je comprends ce qu'est en fait ce pays. Donc il y avait aussi cette volonté-là d'envoyer les personnages à l'étranger pour regarder à travers leurs yeux ce pays qui est le mien et que parfois j'ai du mal à comprendre.
Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe très rapidement pour le personnage de Sylvie dans la voiture. Elle vient juste d'atterrir sur le sol américain. Dans la voiture qui l'emmène dans sa nouvelle maison, son premier mouvement est de regarder son passé. Vous écrivez, c'est comme un alpiniste qui est arrivé en haut du sommet. Il regarde le chemin parcouru. Et c'est ce qu'elle fait. Au lieu de regarder en avant, elle commence par faire ça.
Et la raison pour laquelle ce personnage regarde, plutôt que de regarder en avant, regarde en arrière, il y a une très jolie. Vous savez, quand on dit en français, quand on fait le geste pour le passé, on dit ah oui, c'était il y a longtemps. Alors il y a des cultures où c'est le contraire. C'est l'avenir, on fait comme ça, et le passé, c'est dans ce sens-là, parce que le passé, c'est ce qu'on voit. Donc il est devant nous au sens où il est devant nos yeux, alors que l'avenir, étrangement, c'est l'endroit où on ne voit pas. Et donc il y a ce mouvement-là, ce simple mouvement de quand on est inquiet parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, on est renvoyé à soi-même. Et il y a aussi un autre mouvement qui est assez particulier au voyage aux États-Unis, qui a peut-être été éprouvé par certaines personnes qui sont là... pas dans la salle, mais sous les arbres, qui est que les États-Unis, qui ont été une sorte de terre promise, de terre d'accueil, ça peut avoir porté toutes sortes de noms, est aussi une sorte de terre commune, c'est-à-dire que on connaît tous, même si on n'y est jamais allé, on sait à quoi ça ressemble. Par exemple, je pense que même des gens qui ne sont jamais allés à New York, si on leur dessine la petite skyline, la ligne d'horizon avec tous les immeubles, ils la reconnaissent. Ah oui, c'est New York, comme Paris, c'est la Tour Eiffel. Mais au-delà de ça, il y a des habitudes et des faits culturels américains qui nous sont très familiers, et pour certaines personnes, plus familiers que des choses qui vivent tous les jours.
Alors, à cause du cinéma.
À cause du cinéma, de la télé, des livres, de la merveille puissance de la culture américaine et de la façon qu'elle a dirigé le monde entier maintenant. Et donc, il y a cette espèce d'étrangeté d'aller si loin pour trouver quelque chose qu'on connaissait déjà. Et est-ce que quand on connaît quelque chose déjà par le cinéma, par la littérature, on le connaît réellement ou pas? Donc Sylvie, elle est dans cette situation. Par exemple, c'est une situation linguistique aussi, parce que dans ce livre-là, le rapport aux langues, aux deux langues, il est central aussi. Puisque Sylvie... Donc on a trois personnages, Hector, il est à moitié, il est né au Pays de Galles, donc il est anglophone de naissance. Il a transmis cette langue à son fils, donc on a deux membres de la famille qui sont anglophones, et on a Sylvie qui parle anglais, enfin croit-elle. Et c'est souvent comme ça avec l'anglais, on croit qu'on parle anglais, mais quand on arrive en Angleterre, on comprend rien à ce que disent les gens. Et puis quand on leur répond, alors eux comprennent encore moins. Alors, bon, c'est pas mon cas parce que c'est mon métier, mais j'ai souvent été confrontée à ce genre de situation. Et en fait, cette façon qu'on a de croire connaître quelque chose et de ne pas le connaître, en fait, c'est aussi aigu linguistiquement, puisque Sylvie, ça va être aussi une des difficultés qu'elle va avoir à regarder ce pays et à le comprendre. C'est parce qu'elle va croire qu'elle peut parler et qu'on peut lui parler. Et en même temps, et en fait, non, il y a quand même cette barrière de la langue. Et pour continuer sur la langue, je dois dire que c'était assez amusant pour moi d'écrire un livre entièrement en français, mais dans lequel parfois des Français parlent entre eux en français, des Français parlent avec des Américains qui leur répondent en anglais, mais c'est quand même écrit en français, des Américains qui parlent français, mais mal, des Français qui parlent anglais en faisant des fautes, mais c'est quand même écrit en français. En fait, on ne voit pas tout ça dans le livre parce que c'est fabriqué. Enfin, il y a des petits procédés qui me permettent de le faire. Mais je dois dire que c'était le genre d'embarras dans lequel un écrivain se met lui-même. Et quand je me suis rendu compte que je m'étais fichu dans ce pétrin, je me suis haï, quoi. Je me suis dit, mais pourquoi t'as fait c'était trop compliqué, cette histoire. Pour les dialogues, c'était un enfer à écrire. Mmh. Mais enfin, j'espère que ça se voit pas.
Mais justement, Agnès de Sartre, si on reste sur cette question de la langue anglaise, cette langue, elle a été pour vous, à l'adolescence, une sorte d'échappatoire, hein, puisque pour vous, et la langue et la littérature française, eu égard à votre histoire familiale, c'est quelque chose de douloureux, de compliqué. Et vous avez fait ce détour par la littérature américaine. Alors, c'est devenu ensuite votre métier, mais pour mieux revenir ensuite à la littérature française. Et ce livre aussi est une espèce de d'hommage, ou en tout cas de retour sur cette histoire personnelle que vous avez avec cette langue et cette littérature.
Oui, oui, c'est tout à fait juste. Alors, je ne vais pas m'étendre sur ce rapport compliqué à la langue française. Si ça intéresse des gens parmi vous, j'ai écrit un livre entier là-dessus qui s'appelle « Comment j'ai appris à lire ». Mais c'est vrai qu'il y a une relation très difficile pour moi avec la langue française, mais surtout avec la littérature française, problème qui a été heureusement surmonté. Mais ce problème avec la langue qui continue d'exister, c'est-à-dire je suis persuadée de ne pas parler un bon français. J'ai toujours l'impression de faire des fautes de français. J'ai toujours l'impression que je ne parle pas suffisamment bien français, qu'on va me désigner du doigt en disant « Ah, l'étrangère, elle a un accent ou elle a fait une faute, etc. » Et donc, mais l'avantage de ça, c'est que je travaille toujours la langue. C'est-à-dire, je suis toujours en train de me poser des questions de comment ça fonctionne et pourquoi et la valeur de ce temps. Mais là, est-ce que c'est un temps? Est-ce que c'est un mode? Des questions de grammairien, en fait. Et c'est... C'est pas un mal, en fait, pour un écrivain. Je pense que ça peut être assez important de toujours se réinterroger sur sa propre langue. Mais c'est vrai qu'à une période, au début de ma vie de lectrice, l'anglais a été, et en fait, les traductions de l'anglais, puisque je lisais même pas directement en anglais, ont été une sorte de possibilité pour moi d'aller vers la littérature sans que ce soit parasité par des souffrances qui n'avaient rien à faire là, qui étaient mélangées. Mais en même temps, l'accès à la lecture, il est toujours mélangé de quelque chose. C'est tellement intime qu'on est encombré par des tas de choses. Alors, ensuite, pour continuer, pardon, sur le rôle de la langue anglaise, je dois dire aussi que quand on est un écrivain français, d'expression française de nos jours, on a très cruellement conscience, cruellement au sens de manière aiguë, mais peut-être aussi parfois ça nous fait un peu de peine, d'être vraiment à l'extrême périphérie du monde de la littérature, parce que le monde de la littérature, il est en fait entièrement anglophone, au sens où tout le monde comprenant l'anglais, si vous écrivez un livre en anglais, vous êtes sûr d'être lu, pas sûr, mais enfin vous avez des chances d'être lu au Sri Lanka, en Belgique, en Chine, au Japon, au Groenland. Quand vous écrivez en français, vous avez peut-être des chances que quelques Français vous lisent, mais alors en dehors de votre pays, personne. Il y a très peu d'écho. C'est des choses historiques, ça, la suprématie d'une langue. À une époque, le français était cette langue qui dominait tout le reste du monde. Aujourd'hui, plus du tout. Et donc, quand on est un écrivain français, on sait qu'on écrit avec un toute petite portée. Et c'est intéressant de se poser la question de ça, surtout quand on est traduit. Moi, je traduis des livres qui ont un écho bien plus important que les miens n'auront jamais. Et je me dis, tiens, on est à ce moment-là de l'histoire littéraire où la langue dominante est cette langue-là. Et moi-même, je suis le vecteur de cet envahissement de notre espace culturel par une autre culture. Et ça ne me déplaît pas. Je fais partie de ça, j'y participe activement puisque je traduis, mais ça me semblait intéressant de pouvoir m'en emparer et d'en faire un roman, justement, c'est-à-dire de faire ce que vous appelez le roman américain en français, c'est-à-dire d'agiter cette partie de moi et à partir de là, de fabriquer autre chose.
Parce que cette suprématie de la langue anglaise et du roman américain dont vous parlez, c'est une question de langue, mais c'est aussi une question de canon, de mode romanesque. C'est-à-dire que jusque, grosso modo, à la fin du XIXe siècle, les canons étaient français ou russes. Et aujourd'hui, on pourrait dire un savoir-faire. Et les Américains sont très forts. Alors, et dans le roman, et dans les séries, et dans le cinéma, on peut dire qu'il y a un canon de la fiction qui est américain.
Il y a un canon de la fiction, et c'est même plus fort que ça. Je pense que c'est presque un rapport au réel et à la représentation où ils ont emporté le morceau. C'est-à-dire que leur réel est plus réel que le nôtre. Et je ne sais pas, faites l'expérience, c'est assez troublant en fait, d'ouvrir n'importe quel livre américain, bon, mauvais, moyen, extraordinaire, vous l'ouvrez et vous êtes tout de suite, vous y êtes quoi, vous y croyez, mais parce qu'eux-mêmes y croient. Et en fait, quand vous ouvrez un livre de littérature française, mais pas seulement française, italienne aussi, européenne, vous ouvrez et qu'est-ce qui vous vient avec comme un embrun comme ça ? Il y a un doute, parce que nous on n'y croit plus. Ça fait un moment qu'on n'y croit plus. On a déboulonné pas mal de trucs et c'était vachement rigolo à faire. C'était très, très drôle de déboulonner l'histoire, de déboulonner la narration, de dire tout ça, on s'en fiche, on va être dans la forme, on va être dans l'abstraction. On est allé très, très loin dans ces choses-là et c'est une aventure absolument géniale. Mais pendant ce temps-là, je pense qu'il y a quelque chose, un rapport au réel qui s'est détricoté et aussi parce qu'on est très désillusionnés. On est dans une Europe... qui est revenu de beaucoup de choses. Et on est le vieux, on est la vieille Europe. Et eux, ils y croient encore. Et ce pays qui y croit et qui nous fait croire, on croit à leur truc, nous, maintenant. Et c'est une drôle de situation. Et je pense que c'est une situation qui mérite d'être pensée, d'être questionnée, d'être explorée.
Voilà, c'est vraiment le cœur de ce livre. Au fond, de modèle, on est devenu un contre-modèle. Et cette chose revient de plein fouet dans la figure de vos personnages au moment des attentats. L'un des personnages un peu périphérique, après les attentats, va dire à Sylvie, mais ce modèle des Lumières, est-ce que tu y crois encore ?
Mais oui, parce qu'il y a beaucoup de valeurs qui ont été mises à mal, piétinées, de choses dans lesquelles on a cru. Et il y a toujours cette chose cet aspect quand je me posais des questions sur la France et une certaine tristesse, etc. De quoi on est revenu, de quoi on est blasé, qui on a été, qui on est maintenant, etc. Et cet héritage somptueux des Lumières, c'est des Lumières qui ont éclairé quand même le monde entier. Et qu'est-ce qu'on en a fait ? Est-ce qu'on n'est pas dans une sorte de... On vit encore comme quelqu'un qui s'endormirait sur ses lauriers, qui n'aurait pas fait grand-chose pour les cultiver et qui regretterait, qui ne serait pas tout à fait à l'aise avec cette image, etc. Et même littérairement, je reparle toujours de littérature, mais c'est assez intéressant quand vous questionnez les très grands romanciers américains qui font la pluie et le beau temps et donc le canon, qui crée le nouveau canon en ce moment, quand vous leur demandez qui sont leurs influences, c'est des romanciers français et des romanciers russes. Hein. Mais maintenant, sauf que maintenant, c'est leur tour. Et bon, pourquoi pas ?
Alors, je voudrais qu'on revienne un peu plus précisément sur vos personnages. Donc, je le disais tout à l'heure, vous faites une espèce d'expérience de chimie avec ces personnages qui vont, avec cette expérience de l'exil, subir des changements plus ou moins radicaux. Alors, Hector, le père, va se révéler une espèce de don Juan, absolument une espèce de French lover, comme ça, l'archétype du mâle français qui va séduire et être séduit par les femmes du campus. Sylvie, alors elle est un petit peu plus en retrait puisque au fond elle n'a pas d'ambition dans la vie et c'est au fond un contre-modèle hein, là encore par rapport au modèle de femmes qui travaillent, qui ont de l'ambition. Et puis le troisième personnage extrêmement étrange et attachant, c'est Lester, cet adolescent de 15 ans, adolescent précoce qui lui au fond, va prendre une décision de changer radicalement, puisque dès le voyage en avion, il va dire à sa mère, non, mais je ne veux plus que tu m'appelles Lester, je vais m'appeler Absalom Absalom. Alors, en hommage à Faulkner, bien évidemment. Mais voilà, lui, au fond, ne subit pas ce changement, il le décide.
Mais je pense que c'est un choix que les jeunes gens n'ont pas, en fait, si on peut dire. Ils arrivent dans un monde extraordinairement complexe pour lequel je pense qu'on n'est pas encore adapté, ni physiquement, ni psychiquement. Donc, ils doivent se coltiner avec ça et ils font comme ils peuvent. Ils utilisent des stratégies de contournement, de détournement. Et c'est peut-être pour ça qu'ils prennent des décisions plus vite que nous. Mais je veux bien lire un petit bout pour...
On va peut-être présenter Lester.
Pas pratique. Le garçon s'est moqué de moi tout à l'heure, il s'est moqué du fil de mes lunettes. Il m'a dit déjà avoir des lunettes comme ça, c'est pas très sexy, mais quand t'as le fil, là t'es sûre qu'il t'arrive plus rien. Je veux dire amoureusement dans la vie. Eh bien, je fais le pari que si. Alors, mais c'est pas facile à manier. Je vais lire deux petits extraits en fait. Je vais juste lire les premières lignes puisqu'on a ce baptême de ce baptême et ce que vous venez de dire sur le fait que Lester se rebaptise et ensuite un petit extrait où on va voir un peu comment il fonctionne. Donc c'est le début du livre. Hector avait une femme. Elle s'appelait Sylvie. Ensemble, ils avaient un fils. Il s'appelait Lester, un prénom anglais parce que la famille paternelle d'Hector était originaire de Penzance, en Cornouailles, ou plutôt d'une bourgade située au nord de cette station balnéaire, un village dont on taisait le nom par amour du secret. Récemment, Lester avait demandé à ce qu'on l'appelle autrement. Cela s'était passé dans l'avion, au-dessus de l'océan Atlantique, à peu près au milieu, mettons. Là où, avait songé l'adolescent, passagers et équipage seraient irrémédiablement perdus si par malheur l'appareil venait à s'abîmer. Même si l'amérissage est possible, avait-il spéculé, nous sommes si loin de tout, si détachés de la terre, que nous mourrons. Nous ne mourrons pas dans les flammes, nous ne mourrons pas sous le choc, corps lacéré par les éclats de carlingue, nous mourrons comme sont morts les marins, les explorateurs, de faim, de tristesse et d'angoisse. Cela ne lui faisait pas peur, il avait 14 ans et s'exerçait fermement à la sagesse. Et juste après, il va se faire rebaptiser Absalom. Mais on passe quelques pages et on le retrouve. Protéger mes parents. Protéger les d'eux-mêmes et des autres. Ce sont de braves gens. Et comme vous le savez, les braves gens ne courent pas les rues. Pourquoi sont-ils braves? Je vais vous le dire. Ils sont innocents et ignorants de leurs conditions. Ils avancent, je le vois, avec courage et honnêteté. Ils ont connu des chagrins, ils ont connu des épreuves. Jamais ils n'en parlent, jamais ils ne se plaignent. Ils avancent, aussi aveugles que des lombrics, aussi industrieux et inoffensifs. Ils s'aiment l'un l'autre, c'est si rare. Hector aime Sylvie, Sylvie aime Hector. Ce sont mes parents, mes pauvres parents, mes vieux parents, mes pauvres vieux parents. Protégez-les. Qu'est-ce que tu fais ? Demande Sylvie qui se tient depuis quelques minutes dans l'embrasure de la porte menant au garage. Elle observe Lester debout qui se balance d'avant en arrière, un épais volume entre les mains. Lester, qu'est-ce que tu fabriques? Réponds-moi. Je ne m'appelle plus Lester, lui dit-il, se tournant lentement vers elle. Je m'appelle Absalom, Absalom. Appelle-moi ainsi. Je t'appelle comme je veux, nous t'avons baptisé, ton père et moi. Vous ne m'avez jamais baptisé. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai été baptisée dans l'avion. L'hôtesse m'a oint. C'était mon baptême de l'air. Sylvie rit très fort et Lester rit avec elle. Non, sérieusement, qu'est-ce que tu fabriques là, dans la cave, tout seul? Il fait beau dehors. Ce n'est pas une cave, Sylvie. C'est un garage. Appelle-moi maman. C'est un garage. Tu pries? Demande-t-elle d'un ton soupçonneux en désignant le livre que Lester serre à présent contre sa poitrine. Non, je joue à la Wii. Il n'y a pas de console, pas d'écran. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'irai allumer la console quand je serai prêt, je m'entraîne. Je suis en train de m'échauffer, si tu préfères. Et ça, c'est quoi? Poursuit Sylvie en touchant le livre du bout de l'index. Quoi, ça? Ce livre, c'est pas un mode d'emploi de jeu vidéo? Non, répond Lester en lui montrant la couverture. Ce sont les confessions de saint Augustin. Ah, quand même! Quoi? Tu avoues? Quoi? Que tu lis saint Augustin? Je ne le lis pas. J'ai pris ce livre parce qu'il a le poids exact qu'il faut pour développer ses biceps sans se faire une tendinite. Tu veux que je te montre le tutoriel? Non, je veux que tu viennes dehors profiter du soleil. D'accord, maman.
Alors, c'est très drôle, Agnès de Sarthe, et en même temps, c'est assez inquiétant sur ces nouveaux enfants. Et au fond, on se dit que le rapport parent-enfant est complètement inversé.
Alors, il y a plusieurs choses qui sont inversées, effectivement. Déjà, c'est une scène... mais je fais beaucoup ça, moi j'aime beaucoup prendre un cliché et le renverser. C'est une scène où normalement la mère découvre un morceau de shit et son enfant essaye de lui faire croire que c'est du chocolat. C'est ça la vraie scène, la scène originale. Ou alors il lui fait croire qu'il fait ses devoirs alors qu'en fait il est en train de lire le mode d'emploi d'un jeu vidéo. Mais il dit non, c'est mon livre d'histoire, etc. C'est ça la vraie scène. Mais c'est la vraie scène, mais plus vraiment en fait. Parce qu'on est à un moment que moi j'observe, moi j'adore observer les adolescents, c'est une de mes passions dans la vie, les adolescents, et les regarder, et les entendre, et les écouter. Et en fait, ils sont à un moment tellement étrange qu'ils développent de nouvelles stratégies et donc de nouvelles attitudes. Et je vois ça autour de moi et je me dis que c'est peut-être important d'en témoigner aussi. Et donc Lester est un exemplaire prélevé parmi ces adolescents-là, donc qui est alors je sais pas le mot précoce, oui c'est ce qu'on dit souvent maintenant quand on ne sait pas quoi dire sur quelqu'un, on l'appelle précoce. Les enfants très agités sont précoces, les enfants muets sont précoces, donc les adolescents rebelles sont précoces aussi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on entend en fait par cette précocité? Moi, il me semble qu'ils sont précocement exposés à beaucoup de violences et beaucoup de choses qui ne les concernent pas. Et donc, on pourrait dire que cette précocité, elle naît de cette chose, de cette hyper-exposition que moi, je trouve très inquiétante. Enfin, même moi, je ne la supporte pas, en fait, cette hyper-exposition à l'information, aux images, être au courant sans arrêt des catastrophes qui arrivent à la seconde même. On sait parfois... je pense qu'on a su... je me souviens, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce moment terrible qu'on a vécu, c'était un des premiers moments qui nous a rassemblés autour de ces horribles messes, qui était un moment de télévision pour moi inouï. C'est quand on a vu les gens sauter des tours au moment du 11 septembre. Et d'une certaine manière, on savait avant les gens qui tombaient qu'ils allaient mourir. Nous, on ne savait même pas qui ils étaient. On ne savait pas comment ils s'appelaient. Et on les regardait en train de mourir en direct. Après, on les revoyait. Et une heure après, on les revoyait encore. Ils n'arrêtaient pas de mourir. Quand on les revoyait, ils étaient déjà morts. Mais enfin, la première fois qu'on les avait vus, on les avait peut-être... Enfin, et je me disais, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Comment est-ce qu'on est censé pouvoir supporter ça? En fait, on ne peut pas le supporter. Et donc, forcément, puisque c'est des choses qui se multiplient, maintenant, on a pris l'habitude... ça arrive tout le temps maintenant de voir ça. Et donc, qu'est-ce que le cerveau fait? Qu'est-ce que le langage fait? Comment on s'adapte? Comment la culture peut s'insérer là-dedans? Qu'est-ce qu'on peut encore dire puisque tout est montré? Qu'est-ce qu'on peut encore montrer quand tout est dit? Enfin, ça pose énormément de questions sur la représentation. Et c'est vrai que c'est le personnage de Lester, il est né d'une réflexion sur... à quelle mutation nos enfants vont-ils être contraints pour pouvoir supporter le monde dans lequel ils vivent? Un monde que je continue de trouver passionnant personnellement, hein, mais qui est pas facile, quoi.
Et en effet, ce que vous dites se manifeste de manière extrêmement violente au moment des attentats de Paris, les attentats du Bataclan du 13 novembre. C'est-à-dire que Lester, cet adolescent de 14 ans, va être averti avant sa famille, par l'Internet, parce qu'il est relié, hein, c'est le mot qu'il emploie, tout le monde est relié, et il va même être averti avant les familles des victimes, enfin voilà. Et le processus normal, au fond, serait que ses parents soient avertis de ces attentats, et ensuite l'expliquent à leur enfant, et c'est pas ça qui se passe. Et y a une scène très, 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 très émouvante et très déstabilisante entre Lester et sa mère, où on voit que deux générations sont face à face et n'envisagent pas le monde de la même manière. Peut-être pouvez-vous la lire?
Oui, je veux bien. Si ça vous va quand on lit, c'est pas ennuyeux? Non? Vous entendez bien? Ok. Super. Je sais pas où elle est, cette scène, mais on va la trouver. C'est là où il y a un... Ah oui. Tu avais d'autres amis là-bas? Oui. Ils ont été blessés? Ils sont vivants? Oui. Blessés ou vivants? Les deux. Regarde-moi, Lester. Oui. Regarde-moi, chérie. Mon chéri, je ne sais pas quoi te dire. Je n'avais pas pensé te mettre au monde pour vivre ça. Je pensais, c'est bête, je sais, je pensais que le pire était derrière nous, que nous étions en quelque sorte protégés par l'horreur du siècle dernier. Je sais bien que c'est idiot parce que ce n'est pas une affaire de probabilité et que le répit entre deux catastrophes a toujours été court, même en Europe, mais je n'arrive pas à y croire qu'ils aient recommencé, que ça continue, comme si maintenant ça allait être ça, notre vie, une vie en guerre sans la guerre, une vie de rats qui n'osent plus sortir de chez eux. Parle-moi, mon chéri, tu es choqué, dis-moi, tu es choqué ? Ils sont dans la cuisine. La nuit est tombée alors qu'il est encore tôt. Ni l'un ni l'autre n'a allumé la lumière. Mère et fils se tiennent dans une pénombre bleue qu'électrise la guirlande lumineuse entortillée autour des montants de la véranda de la maison d'en face. Sur le fronton, en lettres oranges, clignote l'inscription « Thanksgiving is coming soon ». Leurs visages sont alternativement indigo ou doré, suivant le rythme d'allumage des différentes loupiottes. Sylvie prend les mains de son fils dans les siennes. Elle s'approche encore et le serre dans ses bras. Lester lui semble étrangement inerte. Plutôt que de la rassérénée, le contact du corps mince de son fils la bouleverse et elle se met à sangloter. « Je suis désolée, mon chéri, je me sens coupable. On aurait dû faire quelque chose pour éviter ça, pour qu'on n'en arrive pas là. On aurait dû prendre garde. Mais à quoi ? Parle-moi, mon chéri, dis-moi qui était là-bas. » « Des gens que tu ne connais pas. » « Mais toi, tu les connaissais. » « On se connaît tous. » « Comment ça ?» On est reliés. Qu'est-ce que tu racontes, mon poussin ? Sylvie s'éloigne de son fils, fait trois pas en arrière, elle tire un tabouret de dessous la table et s'assied, comme si cette révélation lui coupait les jambes. On est reliés par Internet. On se connaît plus ou moins tous dans un quartier, même dans une ville. Mais c'est affreux ! Enfin, je veux dire, c'est merveilleux ! C'est affreux, répète lentement Lester en articulant exagérément. Pourquoi c'est affreux ? Demande Sylvie, dont la voix tremble. Comment c'est affreux ? C'est toi qui l'as dit, Sylvie. C'est toi qui as dit que c'était affreux. C'est pas la peine que je t'explique. Mais si, c'est la peine, parce que tout est tellement affreux que je ne sais même plus ce que ce mot signifie. Et appelle-moi maman, s'il te plaît. D'accord. Je t'appelle maman, maman. Mais alors, c'est toi qui dois m'expliquer. Parce que ce sont les poules qui font la leçon à l'œuf, pas l'inverse. D'où sors-tu ce dicton ? C'est une comptine qu'on avait apprise à la maternelle. Je ne te crois pas. Dit Sylvie en caressant tout doucement les cheveux de son fils qui s'est assis face à elle sur une chaise un peu basse. « Je ne crois presque plus rien de ce que tu me dis. Je suis bête, mais je suis ta mère. »
Comment l'actualité, cette actualité-là, les attentats de Paris ont fait irruption dans votre processus d'écriture ? Ce n'était absolument pas prémédité ?
Non. J'ai la chance ou la malchance d'être d'une distraction sans égal. Et donc, je n'ai pas du tout fait attention en commençant mon roman et en le situant en 2015. Mais bon, c'était le moment où j'écrivais, je le faisais au présent. Et je me suis dit, oui, mais tu ne peux pas, cette année, ce n'est pas une année comme les autres, là, dans ton pays, si c'est passé des... Tu ne peux pas faire comme... Mais en commençant le projet, je n'avais pas... J'avais pas cette idée que j'allais devoir embrasser, si on peut dire, ces événements. Et si j'avais su, j'aurais tout de suite arrêté de faire le livre, parce que ça m'aurait effrayé, que j'aurais pas su quoi en faire, et que je me serais dit, c'est indigne, parce que des vrais gens sont vraiment morts, et que après tout, quand on n'est que témoin, comment s'emparer d'événements de ce type-là. Maintenant, ça pose la grande question de qui peut écrire le témoin. Mais c'était c'est un débat très, très douloureux, puisque c'était un débat qui a été extrêmement fort sur tous les récits d'après les camps d'extermination. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont dit « Seuls peuvent témoigner ceux qui les ont vécus. » Oui, non, mais ceux qui les ont vécus, ils sont morts. Donc, à ce moment-là, on ne témoigne plus. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc, quel est le statut de l'écrivain à ce moment-là ? Est-ce qu'il parle pour ceux qui ne peuvent plus parler ou ceux qui n'ont pas la force de parler ? Oui, il y a cet aspect-là aussi. Il y a cet aspect de... je me souviens que le 14 novembre, au matin, j'ai reçu un coup de fil du journal Libération me demandant est-ce que vous pouvez nous écrire un texte sur ce qui s'est passé hier ? Et on a besoin très vite du texte. Et je leur ai dit, écoutez, je ne peux pas vous dire là tout de suite. Je vous rappelle dans un quart d'heure. Et en fait, je me suis dit,
Mais je me sentais une responsabilité de citoyenne écrivain en me disant, les écrivains, ils ont aussi peut-être ce rôle-là. Moi, mon rôle, c'est surtout de faire rigoler les gens, mais de temps en temps, c'est aussi de parler quand il n'y a pas eu de parole posée sur quelque chose, de dire quand ça n'a pas été dit, de parler quand on ne peut pas parler, quand on a la gorge étranglée par l'angoisse ou par la tristesse ou par la douleur, et que peut-être à ce moment-là, l'écrivain vient et dit « bon, bah, je vais le faire, c'est mon métier », comme si on officiait. Et je me suis dit « bon, bah, on va bien voir si en un quart d'heure, il y a un mot qui vient, s'il y a un mot qui vient, le reste viendra ». Et donc, il y a un mot qui est venu, je ne sais plus lequel c'était, mais il y a un mot qui a surgi, et donc j'ai rappelé en disant, bon, bah, je vais le faire. Mais je l'ai fait comme on m'aurait demandé d'accomplir, je ne sais pas, peut-être comme faire la toilette d'un mort que personne ne pourrait faire. Il y avait quelque chose comme ça, c'est ton devoir. Et peut-être que cette expérience-là, d'oser parler après quelque chose d'effroyable, ça préparait quelque chose pour ce livre que je ne savais pas encore que j'allais écrire, bien sûr, mais qui, au départ, était un projet amusant et joyeux. La chance de leur vie. Ils partent et tout ce que je dis, ah ouais, mais il y a... Ah oui, non. Ah, c'est vrai, il y avait les attentats en 2015. Ah oui. Ah ben, je vais devoir en parler. Ah ben, comment faire? Bon, mais voilà, c'est ça aussi un... Ben, l'écrivain, il se retrouve aussi dans des situations où parfois, il n'a pas prévu ce que le réel allait mettre dans le monde pendant qu'il écrivait.
Mais ce que vous montrez aussi, avec cette question des attentats, mais aussi avec une question, un sujet plus périphérique, qui est la perte d'un enfant, puisque par le passé, Hector et Sylvie, avant la naissance de Lester, ont perdu un enfant. Au fond, vous posez cette question, que signifie être affecté? Est-ce qu'on peut le dire? Est-ce qu'on peut le partager? Par exemple, pour le cas de la mort de cet enfant, Hector s'est réfugié dans un mutisme parce qu'il se sentait comme un pestiféré, puis aussi parce qu'il voulait protéger sa femme. Voilà, il voulait qu'elle vive, qu'elle se reconstruise, donc il a choisi cet enfermement sur soi. Et dans le cas des attentats, c'est aussi se dire, se mettre peut-être à la place de l'autre, comme le fait Lester, qui pense à ce jeune homme blessé dans les attentats du Bataclan et qui met une feuille de papier sur sa main. Il se dit, voilà, il ne pourra plus utiliser ses doigts pour jouer de la guitare. Voilà, ça passe par des choses concrètes comme ça.
Alors, y a beaucoup de choses dans ce que vous venez de dire, hein, mais c'était... il est beaucoup question de notre capacité à l'empathie. Notre empathie est sans arrêt sollicitée. Il faut pleurer sur beaucoup de choses et sans pouvoir rien faire pour réparer. Et donc ça aussi, c'est une mutation à laquelle on va être obligé de contraindre nos corps et nos esprits. Parce qu'il me semble qu'à une époque où les territoires étaient plus séparés, où la géographie, où le temps était moins déstructuré, où il créait des espèces de limites, d'une certaine manière, quand vous étiez affecté directement par quelque chose, vous aviez, dans le même temps que vous appreniez la nouvelle, une possibilité qui vous était offerte, que vous pouviez saisir ou non, d'essayer de réparer. C'est-à-dire, par exemple, je ne sais pas, il y a une inondation dans votre village, vous le savez, parce que c'est dans votre village, et vous pouvez, si vous en avez envie, personne n'est obligé, mais si ça vous prend, pour vous consoler, pour peut-être aider les gens, pour vous consoler de la mort de certaines personnes, vous allez pouvoir aller aider à transporter des choses, à déménager, à remblayer, etc. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, c'est comme si, sans arrêt, on apprenait qu'il y avait une inondation. Notre village, c'est le monde. Il y a une gigantesque inondation et on ne peut rien faire. Parce que c'est loin, parce que c'est énorme, parce qu'en plus, personne ne nous le demande. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour à la fois encaisser la douleur, être en empathie avec les personnes qui, tout en continuant à vivre, sans rien faire? Mais si je m'engage pour cette cause, alors pour celle-là, non, je peux pas, j'aurais pas le temps, etc. Et donc c'est une sorte d'exercice vertigineux de la vertu qui est au centre de beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouveaux débats, y compris de débats idéologiques, Elle est sortie de la sphère morale pour envahir la place publique. Et ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'aussi, il y a une question au quotidien sur notre capacité à la vertu et qu'elle est extraordinairement difficile à mettre en œuvre dans le monde tel qu'il est, c'est-à-dire un monde géant, sans frontières, et où tout semble à portée de main et on ne peut rien attraper. Donc c'est ce type de situation que j'essaye d'illustrer quand ce jeune garçon, pour tenter d'éprouver, cache ses doigts en se disant voilà comment est la main. Il a un ami qui a perdu 4 doigts et il veut voir comment c'est, pour tenter d'éprouver quelque chose, hein, à distance, etc. Donc c'est une façon d'illustrer ce propos, c'est-à-dire comment on fait pour compatir. Et qu'est-ce qu'est devenu l'empathie et à quelle action ça mène, etc. C'est ce genre de questionnements qui ont aussi peu à peu envahi le livre.
En envoyant vos personnages aux États-Unis, vous mettez aussi en scène un conflit entre deux modèles de rapport homme-femme. On pourrait dire, pour aller très vite, la séduction à la française. Et puis, de l'autre côté, un modèle qui prône une stricte égalité des sexes, qui réglemente, alors peut-être trop, hein, mais les rapports entre les hommes et les femmes, puisque, en effet, le personnage d'Hector, mâle alpha français, va devenir le donjon du campus.
Alors ça aussi, c'était un peu une affaire compliquée, mais peut-être que ça naît aussi dans la différence entre les langues et les cultures. Moi, ça m'avait toujours frappé que une capote anglaise, en anglais, ça se dit French letter, une lettre française. C'est toujours là-bas que ça s'est passé. C'est pas moi, c'est lui. Donc il y a une façon comme ça d'exporter ou d'exorciser ou d'expatrier le désir. Donc celui qui vient de loin est toujours plus désirable que celui qui est à côté. Et c'est pas un fait linguistique anodin. Ça témoigne de quelque chose. Et donc forcément, quand j'envoie ce monsieur, ce professeur, qui était en tant que professeur à Nanterre, avait absolument aucun succès avec personne, dès qu'il arrive sur le campus aux États-Unis, il y a quand même l'expression « French lover », et même si vous n'êtes pas d'accord, même si vous êtes revenu de tout ça, etc., la langue, elle continue, les expressions, elles ont une force, et il y a des représentations qui en naissent. Mais c'est aussi parce que, bien que aujourd'hui, dans ma conversation avec vous, Sophie, je sois assez sérieuse et affectée et triste, enfin, parce qu'il y a des choses qui m'attristent, il y a aussi beaucoup de choses dont j'ai envie de m'amuser et dont j'ai envie qu'on puisse rire un petit peu et que je trouve traitées souvent de manière trop pesante. Et moi, ça m'amusait De faire une sorte de caricature du campus féminin avec ces femmes très très féministes, très très certaines de la manière dont les hommes devaient se comporter avec elles, mais qui soudain confrontées à un type de l'ancienne Europe qui leur tient la porte, porte une valise à leur place, les aide, etc., se sentent comme des archéologues tout excités d'avoir découvert une sorte de dinosaure. Quelqu'un qui a encore ces pratiques inouïes, c'est incroyable, mais en fait c'est une façon qu'elles ont d'habiller leur émoustillement, si on peut appeler ça comme ça, et c'est vrai que c'était une façon pour moi de m'amuser de combat. Quand j'ai parlé tout à l'heure de la vertu, on est dans des moments, c'est marrant, c'est drôle parce que moi, j'arrive des années 60. J'ai grandi dans une époque où il y avait encore le communisme, où il y avait cette grande scission droite-gauche, où il y avait des grands idéaux, des grands discours, etc. Et puis où il y avait où le féminisme était déjà à l'œuvre depuis longtemps, mais il y avait des manifestations extraordinairement importantes et intéressantes dans les années 70, etc. Donc tout ça a été vécu par moi, par vous, etc. Et puis, en devenant adulte, je sais qu'il y a eu un moment très bizarre où je me disais, ah, zut, la politique n'existe plus. Ça n'intéressait plus personne. Et on parlait plus que de nourriture. Alors moi, j'adore manger, j'étais très contente. Mais en même temps, je me disais, c'est marrant, quand j'étais enfant, régime, on pensait tout de suite régime politique. Le mot régime appelait régime totalitaire. Si vous disiez régime, vous avez tout de suite totalitaire qui venait derrière. Ou régime capitaliste. Et puis, alors c'est peut-être dans mon milieu, mais je ne crois pas seulement. Et puis, dans les années 80-90, c'est devenu régime sans gluten, régime crétois. Alors, régime, si vous disiez régime, derrière, il y avait tout de suite crétois. Et c'était hyper important ce que vous mangiez. C'était vraiment très, très sérieux. Et là, vous avez des trucs sur... non, alors les pommes, il faut arrêter. Hein. C'est très, très grave, les pommes. Et on dit, ah, ça, c'est intéressant, ça. Mais oui, c'est intéressant, mais je ne sais pas. En fait. Mais peut-être que je viens d'un endroit ou d'une culture où on se préoccupait d'autres choses. Et ce grand truc qui m'est apparu là, et je voyais bien que c'était peut-être aussi un conflit de génération où il fallait tout retraiter sur le genre, le sexe, pas faire comme on faisait avant, être très... Et tout ça me semblait tellement vertueux, tellement sérieux, tellement cul serré. J'étais là, oh, je suis fatiguée. Oh, je suis fatiguée, j'ai envie de parler d'autre chose. J'ai envie de parler du communisme. J'ai envie de parler de Marx. J'ai envie de parler de l'humanisme et en même temps c'est dégueulasse de dire ça, je le sais, mais c'est le bonheur qu'on a quand on est écrivain, c'est que on a cette liberté. Après les gens peuvent vous dire eh ben j'ai détesté votre livre parce que vous faites ça, eh ben ouais, mais moi j'avais envie de parler de ça. Alors c'est vrai que quand moi je mets les pieds dans le plat, je saute à pieds joints en général. C'est-à-dire que non seulement dans mon livre, il y a un Hector qui séduit des femmes, qui trompe sa femme, etc. Mais en plus, on a un personnage, et ça je ne pensais pas que ça allait faire un problème, mais ça fait un problème. Cette pauvre Sylvie n'a pas de métier. Elle est femme au foyer, et ça, c'est très, très grave. Donc, si vous voulez écrire un livre... et qu'il soit publié, etc. Faites gaffe, ne mettez pas un personnage de femme au foyer parce que c'est négatif maintenant. C'est devenu très mal. Alors que moi, en fait, femme au foyer, en haut de l'arbre, chez le dentiste, une femme, c'est une femme. Et ça m'était complètement égal. Surtout qu'en tant que femme au foyer, elle est totalement nulle, vu qu'elle ne fait rien dans son foyer.
Elle est allergique à la conjugalité.
Elle n'aime pas la conjugalité, elle ne fait pas à manger, elle ne sait pas repasser, elle ne sait même pas plier un habit. Enfin, donc... elle est complètement rebelle d'une certaine manière. Elle est rebelle, mais il n'y a pas marqué rebelle comme étiquette dessus. Et comme on est à une grande époque d'étiquette, bon, alors c'est un peu ambigu. Mais moi, j'aime beaucoup, quand je vous dis, quand je vois un plat, j'y vais, mais en sautant à pieds joints dedans, parce que tant qu'à faire qu'on éclabousse un peu et qu'on s'amuse. Donc, c'est vrai que j'y suis allée comme ça, en utilisant des stéréotypes, en m'amusant avec eux, en prenant des grands mouvements et en essayant de mettre un petit... Tu fais une chatouille, quoi. C'est une petite chatouille. Voilà. Et donc, je n'ai pas pu m'en empêcher.
Alors, elle n'a pas de métier, mais en revanche, elle va se mettre à la céramique et elle va, je ne sais pas si on dit, sculpter, modeler d'étranges légumes en céramique. Justement, est-ce que vous pouvez lire un dialogue sur la question de la galanterie, les deux modèles de galanterie entre Sylvie et Lorraine, sa prof de céramique ?
Bien sûr, il va falloir y aller. Aucune excuse ne tiendrait, et d'ailleurs, qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce qui est changé ? Elle va saluer une femme, deux femmes, trois, cinq, dix femmes qui ont fait l'amour avec son mari. Elle en embrassera certaines. En ressent-elle du dégoût, du dépit ? Sylvie n'éprouve rien. Elle n'arrive pas à y croire parce qu'elle ne parvient pas à se concentrer sur les faits. Son entourage déploie pourtant de multiples efforts pour la tenir informée. Jerzy a renouvelé son stock de détails, il suit l'affaire comme une béchamel sur le feu, les lieux de rendez-vous, les horaires, les témoins potentiels. Lorraine aussi s'en est mêlée, de façon plus discrète. Lorraine, c'est le professeur de céramique. Elle a commencé par exalter le tempérament d'artiste de sa disciple favorite. « Tu avances tête baissée, tu es un taureau, comme Picasso. Tu ne te laisses pas distraire, tu ne te laisses pas influencer, tu es complètement libre. Mais c'est peut-être culturel, je ne sais pas. » C'est à toi de me le dire. La liberté, c'est votre truc, à vous, les Français. Votre invention. Nous, en anglais, on a deux mots pour la nommer. Freedom et liberty. Et personne ne sait ce qu'ils signifient. La différence entre les deux, qui la connaît ? La grande bonne femme en toge verte, est-ce qu'on pourrait la rebaptiser Statue of Freedom ? Pourquoi pas ? Mais c'est un cadeau que des Français ont fait aux Américains. Alors, liberty, liberté, ça rappelle la France. Vous avez toujours été un modèle pour nous, ou un contre-modèle, ce qui revient au même. Votre attitude par rapport au sexe, par exemple. Si un homme te tient la porte dans un restaurant, ici, aux États-Unis, il peut se prendre un coup de poing dans la figure. Vous aimez encore la galanterie de l'autre côté de l'Atlantique. Après vous, madame. Même si c'est pour mieux regarder vos fesses. Après vous, madame. Et madame est d'accord. On ne sait pas pourquoi. Elle se sent choyée, elle se sent différente, spéciale. Nous, on ne veut pas être différente, pas spéciale. On veut être égale. Que cherche-t-elle à prouver ? S'est demandée Sylvie, impatiente d'enfourner ses légumes. Nous aussi, a-t-elle tenté. Nous aussi, on veut être égale. Bullshit, a riposté Lorraine. La galanterie vous tuera. Mais son absence nous tuera, nous aussi, peut-être plus vite et plus sûrement que vous. Elle s'est mise à rire de son trait d'esprit. Sylvie a poussé un soupir. Cette conversation ne l'intéressait pas. Elle ne savait comment y mettre fin. Lorraine a mal interprété le soupir. Elle a cru y déceler une ouverture, une concession de Sylvie qui aurait enfin accepté de partager avec elle une partie de ses secrets. « C'est pas facile, j'imagine », a-t-elle murmuré. « Je comprends. Mais toi aussi, il faut que tu comprennes. C'est important parce que ça aide à supporter. Tu te désaliènes en analysant la situation. Tu maîtrises au lieu de subir. » Sylvie s'impatientait. « J'ai mes légumes à cuire », se répétait-elle, comme l'aurait fait une ménagère à l'ancienne. Sauf que ses légumes, à elle, étaient en terre et qu'aucun dîner ne suivrait leur passage au four.
Ce personnage de Sylvie est absolument impénétrable pour les Américaines.
Elle est impénétrable, c'est un personnage qui est impénétrable en général. C'est une sorte de c'est l'énigme, c'est la féminine énigme. Et ce qui fait d'elle, d'ailleurs, une sorte de fétiche de dieu vivant pour son mari, qui a tout compris à tout, vu qu'il est quand même professeur de philo, mais alors à sa femme, il n'a rien compris.
Il n'a rien compris du tout.
Et, mais c'est ça aussi qui fait durer leur couple. Oui. C'est l'incompréhension, c'est la fascination pour l'étranger qu'est notre conjoint. Puisque c'est aussi quand même beaucoup un livre sur le couple.
Sur le couple, sur comment on vieillit ensemble.
Sur comment on vieillit, sur comment un couple dure, sur la durée, sur qu'est-ce que ça veut dire durer. Qu'est-ce qu'on endure quand on dure ? Qu'est-ce qui se déforme ? Qu'est-ce qui se transforme ? Et c'était aussi quelque chose que j'avais envie d'observer, mais comme je me serais mis à genouiller au-dessus d'une fourmilière pour voir comment... Mais qu'est-ce qu'elles font ? Et donc là, je suis au chevet de ce couple et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils se font l'un à l'autre ? Et comment ils s'aiment ? Comment on s'aime ? Qu'est-ce que c'est ces mystérieuses pulsions qui font que parfois des êtres qui s'adorent ne supportent pas de vivre ensemble, d'autres qui se tolèrent à peine passent 50 ans parfois sous le même toit. Alors comment ça marche ? Et ça, ça me paraissait aussi être une équation qui. J'étais prête à travailler un peu sur cette équation, ça m'intéressait.
Mais cette observation met absolument par terre toutes les grandes théories qu'on pourrait faire sur le couple. Parce qu'au fond, ce qui cimente leur couple, ce n'est pas la complicité intellectuelle ou forcément physique, c'est le petit détail, au fond. Ce qui fait que Sylvie continue d'aimer son mari, même s'il l'a trompé, même si le désir n'est plus forcément là, etc. C'est une façon de marcher, c'est un petit détail. Et de manière générale, vos personnages, vous les appréhendez vraiment par ce petit détail. Hector, par exemple, il relève son col de chemise.
Oui, et alors beaucoup de gens dans mon entourage ont regardé les cols de chemise avec énormément de curiosité, en se demandant qui avait servi de modèle pour Hector. Et mon mari ne porte que des t-shirts. Bon, alors voilà, par exemple. Alors, mais parce que moi, pour moi, c'était ce détail. Il était, c'est le rapport à l'autre qu'on côtoie sans jamais le connaître et en même temps en connaissant quelque chose de très très précis, mais qui suffit. Et qu'on est seul à avoir décodé. Et qu'il y a peut-être que quelque chose de cet ordre-là dans l'amour, un déchiffrage d'une toute petite partie de l'individu, mais qu'on est seul à connaître ce code-là. Et en tout cas, c'est ce qui se passe entre Sylvie et Hector. Il y a quelque chose de cet ordre-là, puisque elle comment elle réagit, elle voit ces femmes plus jeunes qu'elle, avec lesquelles son mari a des aventures, et elles ont peut-être Elles ont son temps, elles ont son désir, elles ont des tas de choses, et elles profitent de tas de choses qu'il leur offre. Et elle dit, mais il y a des tas de choses qu'elles n'auront jamais et que moi j'ai, et elle se sent infiniment puissante d'avoir, par exemple, toute l'histoire du corps de son mari. Elle dit, je l'ai connue avec des toutes petites fesses bien hautes, je l'ai connue, mais maintenant elle a des fesses plates, mais j'ai vu comment ça s'est passé. J'ai vu cet effacement comme ça de la silhouette. Et après, elle donne tous les détails. Et elle est comme si... Et sans aucun jugement, sans dire il est devenu laid ou il est devenu vieux. Non, peu importe. Il est devenu. Et elle, elle a été le témoin de cette transformation. Et pour elle, c'est un trésor. Alors, il y a quelque chose. Moi, le couple, je le vois aussi beaucoup comme un champ de bataille, avec chacun qui a son trésor de guerre, que personne ne peut lui prendre. Et d'une certaine manière, Sylvie, c'est ça son trésor. C'est d'avoir possédé le corps de son mari, mais pas comme on dit posséder sexuellement. Ça, oui, bien sûr, mais c'est pas si difficile finalement. Mais c'est surtout posséder l'histoire du corps de son mari. Et ça, c'est inestimable parce que personne d'autre n'a ce trésor-là.
Vos personnages vivent tous des métamorphoses psychologiques, mais aussi physiques. Dans le cas de Sylvie, vous abordez un sujet qu'on aborde rarement en littérature, c'est le vieillissement du corps des femmes et la ménopause. Sylvie, à un moment, pense à Philippe Roth, à Romain Gary, à leur réjouissante impudeur. Du côté des femmes, c'est beaucoup plus tabou.
Mais je me souvenais de moi lisant à 14 ans Portnoy et son complexe, dans lequel le héros se masturbe sur les culottes de sa maman, je crois, pendant 100 pages. C'est un livre magnifique, mais il y avait des moments où je me disais, c'est marrant que je suis en train de lire ça. C'est marrant. Bon. Et je me disais, c'est drôle, en fait, je pourrais expliquer à quelqu'un expliquer à un garçon comment se masturber, s'il savait pas, supposons qu'il ne sache pas le faire. Et je me disais, c'est marrant parce que j'ai une science de ça. Et puis après, en ayant lu Romain Gary, et puis en ayant lu d'autres, Philippe Roth, et encore d'autres auteurs masculins, je me rendais compte que j'étais au courant de plein de choses du corps de l'homme. Sur sa sexualité, sur ses problèmes de prostate, sur la fonte de la masse musculaire, etc. Et j'avais l'impression d'en savoir plus sur le corps des hommes que sur le corps des femmes, alors que moi-même j'en étais une, que j'avais une mère, des sœurs, des amis, etc. Et je me disais, mais on ne parle pas tellement de notre corps finalement. Et aussi, ça me faisait rire parce que je voyais, moi, je m'attache toujours aux mots, comme je l'ai dit plusieurs fois. Et en fait, c'est les mots, ils sont toujours des indices dans mes enquêtes. Et je vois, par exemple, que le mot « couille » est hyper réjouissant. On adore dire ce mot. Et puis, oh, je m'en bats les couilles. Et même des filles le disent. Et puis, les hommes, ils aiment bien, ils plaisantent. Oh, ouais, attends, il y a eu un coup de pied dans les couilles. Oh, c'est pas vrai. Comme ça. Même pas des beaux. Enfin, c'est sympa, quoi. Et si vous dites le mot « ovaire », ah, il n'y a plus personne. Hein. Déjà, vous essayez de dire le mot. Je me souviens, j'avais écrit une pièce de théâtre un jour, et sur la première page, il y avait le mot gynécologue. Et cette pièce n'a jamais été jouée. Et un jour, j'ai dit, mais j'ai compris pourquoi. Il faut que je raye gynécologue et que je mette docteur. Eh bien, ça a mieux marché. C'est fou, hein, mais les mots, et ce n'est pas un hasard. Il y a quelque chose qui met mal à l'aise, qui est désagréable, qui est un peu sale, un peu dégoûtant. C'est culturel aussi, mais pas seulement. Et moi, je me suis dit, tiens, mais bon, ça fait partie de mes explorations en tant qu'écrivain. Par exemple, dans Ce cœur changeant, j'avais eu à cœur de faire du nourrisson, du tout petit bébé, un sujet poétique, un objet de littérature, parce qu'il me semblait singulièrement absent, alors que c'était un sacré monstre, vraiment un personnage absolument génial pour un roman. Et donc, je m'étais attachée à ça. Et là, dans l'histoire du corps de la femme, je m'étais dit, tiens, il n'y a pas de discours sur ces manifestations qui sont en plus varient complètement d'une femme à l'autre. Donc, il ne peut pas y avoir de discours générique parce que chaque expérience est étrange. Personne n'y comprend rien. On se sent mal, mais il n'y a pas de médicaments. Combien de temps ça va durer? Ah, ben, moi, ça a duré 2 ans. Ben, moi, ça a duré 10 ans. Ah, elle, 15. Ah, d'accord. Et pourtant, mais on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas comment. Personne n'en parle. Même les médecins s'en foutent. Et pourtant, c'est très intéressant. Et je me disais, comment faire de ça un sujet poétique et une épopée? Parce que c'est quand même une épopée de vivre de l'intérieur une transformation, d'avoir plus le contrôle sur sa température. On brûle, on redescend, on refroidit, on se durcit, on se ramollit, on a mal, on a plus mal. Je me dis, c'est dingue, on est quand même c'est comme si on était dans un tremblement de terre. Ça peut être magnifique, ça peut être. Et moi, j'avais à cœur de l'écrire pour que ce soit une forme de. Pour en faire une aventure. Ce que ça est, pas forcément agréable, mais enfin, une aventure.
Et c'est l'image de la sorcière qui vient à Sylvie. La sorcière qui, aujourd'hui, est une image qui est reprise par les féministes, voilà, comme une figure positive.
Alors, je ne sais pas si c'est à ce moment-là que la sorcière intervient dans l'esprit de Sylvie. Je me demande si ce n'est pas pour parler de l'adolescence.
Quand elle raconte sa ménopause, les bouffées de chaleur, elle parle de sabbat.
Ah oui, de sabbat. Oui, ça, c'est vrai.
Et il y a le mot sorcière, j'ai relu ce matin. Hein.
C'est possible. Je n'ai pas beaucoup relu ce livre depuis que je l'ai écrit. Alors, je ne suis pas très au point. Mais effectivement, de toute façon, le mot sorcière, c'est toujours un mot... que c'est comme une échappée possible, une échappatoire pour la femme, que si c'est plus possible, alors je peux toujours devenir une sorcière. Si vous posez des questions sur cette phrase, allez lire Laura Willows de Sylvia Townsend Warner. C'est un immense livre sur la femme et dans laquelle on comprend très très bien comment on passe de femme à sorcière, et c'est un livre magnifique. Donc j'en profite pour faire un peu de pub pour... Une écrivain du début du XXe siècle,
voilà,
britannique.
Voilà, vous citez aussi hein, comme des petits cailloux blancs, comme des indices, quelques auteurs qui ont été importants pour vous, dont en effet Sylvia Townsend Warner, dont Flannery O'Connor, Les braves gens ne courent pas les rues, dont évidemment William Faulkner. Peut-être une dernière question, Agnès de Sarthe. Ce roman est construit de manière circulaire puisqu'il se passe sur une année de l'arrivée au retour en France de cette famille. Et au fond, en relisant la fin de ce livre, on pourrait se dire que c'est une espèce d'expulsion d'un paradis qui n'en est plus vraiment un.
Alors, comme si on renoncé. C'est possible parce qu'il c'est vrai que le livre, il est parti d'une sorte d'interrogation chez moi et de désillusion où je me disais mais comment va-t-on faire? Il n'y a plus d'ailleurs, on ne peut plus partir, il n'y a plus nulle part où partir. Où va-t-on aller? Sur la lune? C'est pas prêt encore, puis c'est pas très hospitalier, mais cette impression d'être à la fois très à l'étroit mais dans un monde qui demeure géographiquement aussi étendu qu'il l'était, mais comme quand Lester dit à sa mère, on est tous reliés, et que sa mère commence par dire, c'est affreux, c'est merveilleux. Oui, alors, je ne sais pas si c'est affreux ou merveilleux, mais il y a cette sensation, maintenant, d'être ici et d'être ailleurs, d'être ici et d'être nulle part, et quand on est ailleurs, d'être quand même ici. Et donc, puisqu'on peut toujours communiquer, on est toujours relié, comme dit Lester. Et je ne sais pas je ne sais pas comment les corps vont s'adapter à ça, au fait que l'espace n'existe plus, ou qu'il ne se manifeste plus de la même manière. Il me semble que le corps, il se tient debout, et il fonctionne, et il se déplace, parce qu'il a confiance dans le fait que l'espace existe. Et là, je ne sais pas trop vers quoi on va de ce point de vue-là. Et donc, la fin de ce paradis, c'est peut-être la fin de quelque chose qui n'était pas du tout une utopie, qui était au contraire quelque chose à portée de main, qui était l'ailleurs et le plus tard comme quelque chose d'enviable. Et j'ai l'impression que maintenant, l'ailleurs et le plus tard sont marqués du sceau de la négativité, c'est-à-dire ailleurs c'est pire, Trump, et plus tard c'est affreux, centrale atomique qui explose, etc., réchauffement climatique. Donc on se dit, mais alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? On reste là, on se cramponne à sa chaise, et bon, ben, il va falloir repenser peut-être l'espace et le temps.
Mais quand je parlais de cette expulsion, c'était aussi que cette famille de Français, quand ils arrivent aux États-Unis, ils sont vus comme un autre, alors à la fois exotique, mais à la fois enviable, sympathique, enfin voilà. Et ils vont être expulsés violemment.
Ils sont rejetés du paradis, bien sûr.
Très violemment de ce paradis. Et tout d'un coup,
tous les gens bien sont rejetés du paradis.
On trouve que les Français ont des mœurs archaïques, on trouve que leur fils, voilà, il est trop jeune pour avoir des parents aussi vieux, qu'il ne fait pas assez de sport, enfin. Tout d'un coup, tout va mal. Et on les expulse, en effet, de ce petit paradis.
Oui, mais ça, c'est la, quand je vous ai coupé un moment en disant ce sont les meilleurs qui sont expulsés du paradis, c'est toujours quand on est bien qu'on est expulsé du paradis, parce qu'en fait, le paradis, il ne se passe pas grand-chose. Hein. D'ailleurs, si vous voulez savoir ce qui se passe au paradis, vous lisez Les papiers de Pottermesser de Cynthia Ozick. Bon, il se trouve que j'ai traduit ce livre, mais et à la fin, il y a une description de comment c'est au paradis, complètement réaliste, et vous verrez que c'est pas du tout, ça ne fait pas du tout envie. Donc, c'est vraiment, ça donne très envie de vivre, même dans un monde corrompu, pourri, dur, triste, etc. Donc, si jamais vous avez un doute et que vous vous dites, vous êtes tenté en vous disant, ouais, je serais peut-être mieux au paradis, etc., je vous conseille ça. Vous lisez Les papiers de Pottermesser, même que le dernier chapitre, et vous allez voir, vous reviendrez vous boire une bonne bière et ça ira mieux. Et donc, ils sont expulsés du paradis, bien sûr, et d'une certaine manière, quand du paradis, croit-on. Et là, d'une certaine manière, c'est victoire pour la France. Alors, c'est vrai, j'ai pas pu m'en empêcher, bien qu'adorant l'Amérique, bien que travaillant au rayonnement de sa merveilleuse culture, qu'ils soient jetés hors du pays presque à coups de pied dans les fesses parce qu'ils n'ont pas été comme il fallait, ils ne sont pas normaux, ils ne sont pas respectueux des règles, ils ne font rien comme il faut, ils ne comprennent pas, ils ne se rangent pas, ils sont désordonnés comme on est désordonné, ils sont, etc. Ça me paraissait être en fait un retournement de situation. Est-ce que c'était alors ça veut pas dire que le paradis c'est ici non plus. Hein. Non, mais de toute façon le paradis c'est pas bien.
Ce sera donc le mot de la fin. Merci beaucoup Agnès de Sarthe et merci à vous pour votre attention. Et comme toujours, vous êtes invité à une séance de signature juste à côté.